remercie Madame Bouvard et toute l'équipe de la médiathèque François Mitterrand qui vraiment nous ont soutenus depuis le début d'un projet qui avait été initié d'abord par Alvaro qui est quelque part par là, voilà. Et puis ensuite Catherine et Sylvie qui m'ont demandé de reprendre un petit peu et d'impulser un petit peu le projet. Et j'en étais très heureux parce que Roland, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et comme un certain nombre d'entre vous qui me connaissent peuvent s'en douter, Roland et moi, il y a quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels on n'était pas forcément d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai tenu à mettre une cravate aujourd'hui, rien pour voilà, Roland, il n'y a pas de raison. Hein. Et je dois dire que moi, le souvenir que je conserve de Roland, par-dessus tout, et ça transcendait tout le reste, c'était l'amour pour la science-fiction, et en particulier pour la science-fiction populaire. Le reste ne comptait pas. Les points communs que l'on pouvait tous avoir avec lui passaient par-dessus tout le reste. Donc vraiment, aujourd'hui, moi, ça me fait très très plaisir qu'on soit tous réunis pour pouvoir parler de Roland. Et donc, alors on va commencer tout de suite, parce que vous avez vu qu'on a une après-midi qui est absolument chargée et serrée. Alors, on va peut-être commencer à évoquer, rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On est à Clamart. Je crois que la maman de Roland, peut-être, ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Mais alors, on va peut-être passer tout de suite la parole à Alvaro, le vieux copain de classe de Roland, pour nous parler du Roland tout gamin que vous avez pu voir sur certaines photos.
C'est
bon. Voilà, c'est Alvaro.
Là, je vais essayer de faire super court. Vous êtes en fait au barycentre du Roland historique. Il y avait son collège qui était à 200-300 mètres à l'actuelle place Léopold Senghor, c'est ça?
Oui.
Oui, c'est Césaire, pardon. Et vous aviez son appartement de sa mère qui habite toujours là, en fait, qui est dans la rue de Bretagne, donc juste derrière.
Rien, parce
que tu fais de l'ombre.
Ah, c'est lui? Ah, ok. Et puis.
Là,
c'est quoi? Ah, ok, c'est bon. Voilà. Et en fait, pour revenir à ces dernières œuvres, vous êtes à 300 ou 400 mètres de l'endroit où n'a pas eu lieu l'attentat du petit Clamart. Et en fait, il y a une stèle qui a été inaugurée l'année dernière, je crois, par le député maire, d'ailleurs, il doit venir, et dans le sénateur maire. Ouais, pardon. Et enfin bref, et là-bas, il y avait notre cinéma de banlieue qui se trouvait donc juste à côté du... où on allait quand on était au CES. Puis voilà, donc puis je passe la personne à quelqu'un d'autre. Et ainsi, juste là, en face, vous avez une espèce de petit garage qui paye pas de mine. Et en fait, c'était le bouquiniste, le dealer officiel de Roland, puisqu'il est à mi-chemin entre son appartement et le CES, qui fait que le matin et le soir, en fait, il passait là, et il avait... non, mais en fait, c'est un petit garage, mais en fait, il y avait des bouquins partout, une vraie caverne d'Alibaba. Et en fait, il avait passé un deal avec le bouquiniste, pour tous les feux de noir anticipation qui passaient, étaient de côté. C'était Roland qui, tous les soirs, allait voir sa mère. « Ouais, t'as pas 2-3 francs, il faut que j'aille acheter le bouquin. » Et voilà. C'est comme ça qu'il s'est fait une collection à l'origine. Donc, c'était quand il avait... en 6e, on a 11 ans, quoi. Ouais, bah c'est ça. Bon, bon bah c'est tout.
Voilà. Alors, un point important, tout ce que vous allez voir, le diaporama qui va passer en boucle, c'est d'une part, merci à Anne Carnal qui a beaucoup travaillé à partir des documents qu'un certain nombre d'entre vous lui ont envoyés, et aussi merci à Sarah Doc qui a envoyé de son côté un autre diaporama, et à Arnoux qui a travaillé pour intégrer les deux ensemble. Donc c'est grâce à ces deux demoiselles que nous allons avoir beaucoup de documents qui vont illustrer en boucle tout ce qu'on va voir. Alors, Alvaro vient d'évoquer très brièvement les choses. Moi, il n'y a pas de raison pour que je sois le seul à bosser en tant que moi, appelé Monsieur Loyal. Mais donc, il y a ici, entre autres, Michel Pagel et Philippe Caille, qui ont fait partie des vieux complices de Roland à ses tout débuts. Donc on peut peut-être commencer avant que Claude Ekel ensuite nous parle de Roland à ses débuts et au fleuve. Mais peut-être Michel, Philippe, vous voulez parler et venir évoquer un petit peu notre ami.
Allez.
On va s'asseoir comme ça, on ne gênera pas.
Voilà,
voilà.
C'est un petit duo.
Merci.
De rien.
C'est passionnant, nous sommes suspendus à vos lèvres.
Ouais. Bon. Bah moi, Roland, je l'ai connu en 82, en fait. On avait publié, évidemment, ni l'un ni l'autre, quoi que ce soit, professionnellement, à l'époque. Lui était un petit peu plus avancé que moi. Il avait publié, je ne sais pas, peut-être une dizaine de nouvelles dans des fanzines. Et moi, trois ou quatre. Et c'était un gars un peu sauvage à l'époque, voilà.
C'est le Roland qu'on a connu, puisque là, c'est un an plus tard, 83 Rambouillet, donc il y a Roland derrière. Bah, derrière, il y a Bernard Barbouillet, Michel Pagel et moi-même là derrière.
Voilà, comme quoi, c'est pas des conneries, on s'est vraiment connus à l'époque.
On a les preuves. La photo était prise. Voilà. Donc, pareil, en 82, donc, à Quetigny, à côté de Dijon.
Quetigny, alors il était censé venir, Roland. Voilà, il n'a pas pu venir. Moi je l'avais rencontré à Paris, en fait, quand c'est André Ruault qui est ici présent, qui habitait à l'époque Limoges et qui devait venir à Paris et qui avait besoin d'être hébergé. Et moi, pour des raisons XY, je ne pouvais pas l'héberger. Par contre, Roland pouvait l'héberger, mais lui ne connaissait pas Roland. Moi, je connaissais Roland. Enfin bon, bref, on s'est retrouvés tous les trois sur le quai de la gare d'Austerlitz. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On ne s'est plus jamais quittés quasiment, quoi, parce qu'on a accroché vraiment instantanément. Comme disait Jean-Luc tout à l'heure, effectivement, on avait quand même quelques sujets, quelques centres d'intérêt communs. La science-fiction, le rock'n'roll, je pense que Pascal nous en parlera tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on peut dire, bah. Philippe, on ne t'entend pas beaucoup.
Les premiers souvenirs de Roland, c'est Roland rocker avec son blouson, avec son grand cœur. Et voilà, quand il produit.
Ce soir-là,
c'est des années extraordinaires.
Ce soir-là, on était à Austerlitz, chez vous invités, Roland et moi, on a donc pris, je suppose, le RER que j'ai pris tout à l'heure pour venir jusqu'ici. Moi, j'avais 19 ans, fils de grand bourgeois. Me retrouver avec un brusque ami loubar, en cuir, les épaules dénudées alors qu'il faisait froid et que c'était la nuit, et crachant au sol régulièrement.
Très juste.
C'est vrai.
C'est un souvenir à la fois adorable et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'était très étrange.
Est-ce que je vais m'en sortir vivant?
Moi, j'ai un grand souvenir aussi d'une année, dans 90-92, où je descendais en moto dans le Grand Sud pour rejoindre ma famille. Et je passais direct du côté de Paris, donc forcément, puisque je venais du Nord. Et donc, je me dis, tiens, je vais faire une pause chez Roland. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Et il me dit, ah ouais, mais non, là, je suis pas chez moi, je suis chez Michel, à Lompon-sur-Orge. Mais tu peux venir si tu veux, il n'y a pas de problème, il n'est pas là, mais il s'en fout. J'ai passé 3 ou 4 jours chez toi.
Mais je ne l'ai jamais su.
Avec Roland et Cathy, on a passé 3 jours merveilleux dans
mais alors, ta maison. Mais alors, tous les gens ont disparu à cette époque-là, c'était toi.
Je vais encore les avoir à l'abri dans un placard. Et c'était 3 jours merveilleux chez Michel, sans Michel, mais avec Roland. Je me souviens aussi d'une fois où je suis descendu à Bourg-la-Reine, qu'il a insisté pour écrire Bourg BOU2RE, donc tous les enveloppes. Pour emmerder le facteur, il fallait surtout écrire Bourg-la-Reine. Et donc descendre à Bourg-la-Reine chez lui, enthousiaste. Tu connais pas le halva? Mais le halva, c'est délicieux. Et alors, il me coupait des tranches et des tranches de cette friandise turque. extraordinaire, donc il m'a ramené des boîtes après à la maison, tellement j'avais l'air d'aimer ça. Mais viens ce soir, on fait un concert de Marine Damage, et donc nous voilà partis dans la. Je l'ai suivi dans le métro, dans ces endroits improbables, remplis de tags, pour assister à un concert de Marine Damage, assez effréné dans un café où il avait couru sur le bar. Il était parti très content d'ailleurs. C'était un bon concert, j'ai couru sur le bar.
Il a essayé de le refaire quelques années plus tard pendant une convention, mais là, il a couru sur des tables et les tables se sont effondrées.
Je me souviens de ça.
C'était en 91,
c'est ça. Enfin bon, c'était un personnage haut en couleur, quoi. Et,
ah, c'est clair.
Et puis c'était un super copain, quoi.
À l'époque des fanzines et du cycle du fandom.
Oui. Donc Joël, Joël Vatrebert, tu peux nous en dire un mot, puisque tu es une des grandes héroïnes du cycle.
Bah, dire un mot du cycle.
Et de toi et de Roland, de votre amitié aussi.
Alors moi, ma première rencontre avec Roland, c'était en 79, donc au Festival de Metz. Et Roland, donc il était très jeune, je crois qu'il devait avoir, quel âge il avait ?
19, il est en 60.
19, voilà. Donc il avait fait un petit peu le siège, parce que j'étais attachée de presse du festival à ce moment-là, sous la demande de Philippe. J'avais commencé à publier, mais assez peu, puisque j'allais publier mon premier roman en 1980. Et donc il était venu discuter avec moi, et donc ce qu'il avait envie d'avoir, évidemment, c'était des entrées pour les séances de cinéma, pour les cocktails, etc. Et tout. Que je lui avais donné bien volontiers, parce que déjà, il avait cette espèce de bagou extraordinaire qu'il n'a jamais quitté, et puis cette espèce de force de persuasion, et puis en plus de ça, cette passion qu'il n'a jamais quitté non plus, enfin, cette qualité qu'il avait dans la communication, c'est-à-dire quand il commençait à vous parler de littérature, d'écriture, etc., il était tellement, tellement passionné et passionnant que bon, on avait vraiment, il n'y avait absolument aucun doute, quoi. Donc, je lui avais donné sans problème ses exos et il m'en savait infiniment gré. Donc c'était ma première rencontre avec Roland. Et puis ensuite, bon, bien entendu, des liens ont été créés, on a continué à se rencontrer. Et donc, bah, mes souvenirs suivants, bien entendu, c'était notamment quand on se retrouvait avec Cathy à Clamart, les concerts de Brain Damage. Avec cette musique absolument tonitruante, moi personnellement, ça me casait un petit peu les oreilles, j'y comprenais pas forcément quelque chose, mais j'en sortais vraiment avec la patate. C'était vraiment. On était sur un petit nuage, quoi, c'était vraiment absolument super. Et puis, j'ai continué évidemment. À suivre Roland parce que je savais déjà qu'il écrivait énormément, on avait bien entendu discuté écriture. J'avais déjà un petit réseau d'amitié à ce moment-là avec pas mal de critiques, bien entendu, puisque j'avais été rédactrice chef de l'Horizon du Fantastique, et donc notamment avec un critique de Positif, la revue Positif, qui s'appelait Alain Garceau, et à qui je parlais de Roland parce que effectivement j'avais commencé à lire un petit peu ce qu'il écrivait, je trouvais que c'était assez passionnant, même s'il n'avait pas encore été publié d'une façon professionnelle. Et Alain Garceau, donc, qui l'avait lu en tant que lecteur de maison d'édition, m'avait dit à l'époque que s'il avait connu son âge, il l'aurait fait publier. Voilà.
Donc, pour l'encourager
Oui. Donc ce qui était quand même, donc, quand j'avais dit ça à Roland, ça l'avait quand même justement encouragé, parce qu'il s'était dit ah. Voilà, mais Roland n'allait pas tarder, effectivement, comme vous le savez, à être publié, puisque, bon, première nouvelle, 1983, quand même, Prironi, hein, avec Faire-Part. Et puis, petit détail assez amusant, puisque quand il publie son premier roman, donc c'est Le Serpent de l'Angoisse, 1987, Prix Rony est né en 1988, donc Convention de Paris. Donc il n'y avait pas du tout la rigueur dans ces conventions pour le prix Rony qu'on a maintenant. Merci Monsieur Joseph Alterac. Donc je pense que Roland avait dû participer au dépouillement des votes.
Pas totalement impensable. Ouais.
Il a toujours été frangeux sur ce truc. J'ai fait avec lui des fois.
Non, mais je ne dis pas qu'il n'avait pas été frangeux.
Par contre, en tout cas, évidemment, sa présence influençait les gens. Oui, on avait envie de voter pour lui.
Non. Attends, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il avait influencé en quoi que ce soit les votes. Mais il connaissait, il savait comment s'était passé le dépouillement, en tout cas. Et il me dit, donc on sort de ce vote, hein, et il me dit, espèce d'idiote, pourquoi est-ce que tu n'as pas voté pour toi? Moi, j'ai voté pour moi. Et si tu avais voté pour toi, eh ben, tu aurais eu le prix toute seule. Alors que là, on est ex aequo.
C'est moi qui avais dépouillé.
Voilà, mais enfin, il savait ce qui s'était passé. Normalement, il aurait fallu savoir.
Alors, Jean-Marc Lévy va se joindre aussi à nos amis, puisque lui aussi a fait partie de la fine équipe des débuts de Roland.
Voilà.
Pendant quelques années, le prix Rosny est né, c'était Roland et moi qui le gérions.
Le dépouillement, c'est ça?
C'est vous qui bourriez les gens.
Non, bon, moi, ça c'est un autre sujet, mais deux fois, on a empêché le courage.
Alors, enfin, moi, je me souviendrai toute ma vie. Espèce d'idiot, pourquoi t'as pas voté pour toi? Et moi, j'ai dit, mais jamais je ne vote pour moi. Voilà, donc ensuite, comme vous savez, on l'a dit tout à l'heure, ensuite, Roland a été payé de ses peines et de toute cette passion pour l'écriture, puisqu'il a énormément publié au Fleuve Noir. Donc, je pense qu'on en parlera beaucoup plus tout à l'heure. Moi, j'ai un petit peu décroché de ses publications à ce moment-là, et je suis alors en 1987 en revanche, quand il a publié La Balle du Néant, donc là je suis revenue complètement dans son écriture parce que j'étais complètement scotchée par sa série de son détective thème, le fameux temple de Temple sacré de quel merveilleux personnage. Roland, créateur d'archétypes, quelle merveille absolue. Et bien sûr, jusqu'à le fameux 2001, le dernier anticipation, puisqu'il avait obtenu de publier le dernier numéro de la collection fétiche, voilà, qu'il avait tellement voulu intégrer, et donc il avait réussi à intégrer. Et merveilleux 2001, l'Odyssée de l'espèce, quel livre fabuleux. Et donc j'avais complètement raccroché avec l'écriture de Roland à ce moment-là, enfin, jusqu'à évidemment l'extraordinaire rêve de gloire dont Mireille nous parlera bien entendu, je pense, plus longuement tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et voilà, donc je voudrais dire que Roland, pour moi, c'était vraiment la passion totale. C'était un go-between extraordinaire, c'est-à-dire que ce qu'on lui avait donné peut-être nous un petit peu, qui étions un tout petit peu plus âgés, enfin un peu plus âgés que lui, quand il avait commencé à écrire, il a complètement donné à son tour aux plus jeunes, quand lui a été en âge finalement de faire cette passation. C'est qu'il donnait son temps sans compter, vraiment aux plus jeunes. Il était tout le temps sur les forums. Je me demandais d'ailleurs comment il arrivait à faire un peu de tout bois comme ça, comment il réussissait à être absolument sur tous les fronts, à donner toujours de son temps comme ça, sans jamais compter. Et je l'admirais totalement pour ça, pour cette générosité sans bornes qu'il avait. Et puis pour moi, Roland, c'est aussi le militant, parce que c'est extrêmement important pour moi, parce que j'ai toujours milité pour la cause des auteurs, j'ai jamais cessé d'être sur ce front-là aussi. Et pour moi, évidemment, vous savez que Roland avait fondé avec des amis le blog Génération Science Fiction, et qu'il a été à l'origine, avec ses amis, de Alors, ça s'appelle « Qui contrôlera le futur ?» Voilà. Donc, cette pétition contre Hadopi qui a été portée devant les députés à l'Assemblée par le député Patrick Bloch. Et ça n'est pas rien, puisque bon, cette fronde anti-Hadopi, c'est les écrivains de science-fiction qui l'ont menée. Voilà. Donc je pense que peut-être Sylvie nous en dira un tout petit peu plus tout à l'heure, hein, parce que c'était tellement important, et c'était tellement important que ce soit les écrivains de science-fiction qui portent ça. Voilà, merci.
J'arrive à peu près au milieu, là, désolé pour le retard, mais c'est loin, et c'était long. Je ne pensais pas d'avoir autant de trajets, pour le dire, jusqu'ici, depuis la gare de Lyon. On en est au début de Roland, mes premiers souvenirs, etc., etc. Moi, mon premier souvenir de Roland, il avait cette tête-là, à peu près en plus jeune encore. Les cheveux encore plus longs, t-shirt tout à fait psychédélique. Et si je me souviens bien, alors je ne saurais plus trop situer l'année, mais ça devait être, à mon avis, à peu près au moment de la publication de son premier bouquin, qui était Le Serpent d'Angoisse, si je ne m'abuse, aux fleurs. Et on s'était retrouvés, on s'était rencontrés à un show offert par De Noël. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Pourquoi il était, mais enfin bon, de toute façon Roland était toujours partout. Hein.
J'y étais aussi.
Tu y étais aussi ?
Ouais, c'est la première fois que je t'ai vu aussi.
Je crois que c'est là que la joyeuse bande du futur bande du fleuve s'est rencontrée. Et puis bon, j'ai vu son look, il a vu le mien, je pense que ça nous a fait sympathiser tout de suite. Et on s'est assez vite retrouvés dehors à fumer une substance prohibée dont il était friand, comme vous le savez tous. Donc ça a été à peu près ce qui nous a rapprochés au début. Et puis par la suite, moi j'avais rien lu de lui. Lui, je pense qu'il avait peut-être lu quelque chose de moi, mais je n'avais pas encore publié grand-chose à l'époque. Ça devait être en séquence Serpent d'Angoisse.
87.
J'avais publié Temps Blanc, Biofeedback, Furia, Hurlure, peut-être 4 bouquins. Ouais. Et puis voilà, on s'est vite rendu compte qu'on n'avait absolument pas les mêmes goûts musicaux, ce qui ne nous a pas éloignés du tout, bien au contraire, bien que j'ai toujours détesté ce qu'il écoutait, et je pense que c'était réciproque, mais enfin c'était très cordial comme détestation. Il a toujours, de toute sa vie, essayé de me convaincre que ce qu'il écoutait, c'était à l'origine de toute la musique d'aujourd'hui, et que c'était absolument fondamental, et que le rock n'existerait pas sans les groupes garage obscur psychédélique des années 60 qui gravaient leurs disques au burin au fond d'un garage. Bon, je lui laisse le crédit de ses découvertes et en tout cas de ses recherches qui étaient celles d'un vrai pionnier, d'un vrai, je dirais, archéologue de la musique.
Après, je voudrais juste faire une correction sur ce que tu as dit. Le premier roman de Roland, c'est pas Le Serpent d'Angoisse. C'est La course du Springbok à travers le Veld, roman d'espionnage paru l'année précédente au Fleuve Noir en collaboration avec Alain Paris.
Ah, ça m'a un peu échappé, je dois dire.
À ce sujet, ce bouquin-là, en fait, c'était une commande que Alain Paris, qui était un auteur, lui, déjà publié largement au Fleuve Noir, et qui avait sympathisé avec Roland aussi, qui voulait aider Roland en fait à rentrer au Fleuve Noir. Il a dit, si tu veux, on va faire un bouquin ensemble. Et au départ, le bouquin, il ne le faisait pas pour le Fleuve Noir, il le faisait pour une collection d'un éditeur qui s'appelait Mediamil, je ne sais pas si ça existe encore, qui publiait vraiment des choses de très bas de gamme, on va dire. C'était de l'horreur vraiment sanglante, du porno, des fois les deux ensemble, enfin bon. Et il y avait une collection qui était les dossiers secrets de Madame Claude, ou les dossiers roses de Madame Claude, je ne sais plus quoi. C'était des polars espionnage avec énormément de sexe à l'intérieur. Et Roland et Alain Paris ont écrit un bouquin comme ça, avec des scènes de sexe extrêmement fortes, dans laquelle, d'ailleurs, j'ai relu le manuscrit, et c'est là que j'ai trouvé cette phrase extraordinaire. Son second orgasme fut encore plus violent que les deux premiers. » Bon, il l'a viré, donc finalement.
C'est dommage.
Donc ça n'est pas grave, ça n'est pas paru comme ça. Et puis le bouquin a été refusé, parce que je crois qu'il n'y avait pas assez de sexe. Donc du coup, Paris et Roland l'ont repris, ont viré pratiquement tout le sexe, et ont rajouté des choses un peu plus intéressantes. Et le bouquin finit par paraître au Fleuve Noir, donc dans la collection Espionnage.
D'accord. Voilà. Ouais, mais c'est
Roland, était absolument fou de joie, parce qu'imaginez, depuis son plus jeune âge, il collectionnait le Fleuve Noir, et enfin, grâce à Paris, il rentrait le Fleuve Noir. Il a appelé chez mes parents pour me dire que le roman allait paraître, et il ne pouvait pas se contenir, il a eu ma maman au téléphone, et il lui a raconté combien il était heureux. Maman s'en souvient encore, parce qu'il n'avait pas le temps d'attendre que j'arrive au téléphone.
Justement, alors ça fournit une excellente transition parce que c'est ce dont va nous parler Claude maintenant. Je vais anticiper un petit peu, mais c'est ce dont va nous parler Claude Epen, vieil ami lui aussi de Roland. Donc,
Je n'avais pas fini avec Roland.
On t'écoute. Mais bah, comme on commence à parler du fleuve en même temps, c'est assez lâche. Hein,
ouais, mais je pourrais revenir après parce que mon deuxième souvenir émouvant de Roland, à part son concert mémorable de Brenda Medge à Festival de science-fiction le plus raté de tous les temps, non, le deuxième festival de science-fiction le plus raté de tous les temps, Paris 88.
Le concert était bien.
Le concert était très bien, ouais, ouais. Roland l'avait abondamment, c'était abondamment alimenté en énergie auparavant. Je sais parce que je l'accompagne dans cette libation. Et il avait la pêche, il avait la pêche. Et c'est après qu'on a décidé de faire quelque chose ensemble, mais bon, je vais laisser Claude.
Qu'est-ce que tu voulais faire? Non, ça m'intéresse.
Bah, après, c'est une histoire avec le fleuve noir, justement. Où on sait. Retrouver une fois de plus à un pot, je crois qu'on affectionnait ça, c'est tous les deux, et pot des éditeurs, sur une terrasse, un pot du Fleuve Noir cette fois, et donc on s'est retrouvé pareil autour de certaines substances prohibées qui nous avaient bien fait rire, et on a vu une idée lumineuse, on s'était dit sur le coup, hein, ah tiens, on va faire un bouquin ensemble, et ouais, il faut qu'on trouve un pseudo. Alors on a cherché Red Death. Ah ouais, c'est sympa, c'est sympa. Vous voyez le genre d'idée débile qu'on avait. Ouais, et puis ça va s'appeler comment le bouquin? Alors on cherchait des jeux de mots assez vaseux. Et puis on a trouvé la Sinsé gravite au 21. Ah ouais, c'est génial, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça donne une idée de l'état où on était. Surtout que le pot du Fleuve Noir était généreux d'ailleurs. Et on s'est dit, ah ben oui, c'est trop génial, on va le faire, on verra bien ce que ça veut dire. Et Roland, à cette époque-là, était dans son époque cadran chromatique, faisceau chromatique, voilà, faisceau chromatique. Et donc, Gravite au 21, ça lui disait vaguement, il disait, je peux toujours accorder ça à mon truc et tout. Moi, je ne savais pas trop, vu que je n'avais pas lu. J'avais juste lu à l'époque Le Serpent d'Angoisse et puis La Poupée aux yeux morts. Poupée aux yeux morts, je crois. C'est à peu près tout ce qu'il avait sorti, non? Peut-être deux, trois autres.
Bah, il y avait un ou deux trucs du faisceau. Un ange s'est pendu.
Voilà, un ange s'est pendu. Oui, que j'avais lu aussi, un ange s'est pendu. Donc ça me disait aussi vaguement quelque chose. Et donc on a improvisé devant Nicole Hibert, qui était toutouille et très bonne patte, le futur bouquin qu'on allait faire ensemble.
Colibert était la directrice du Fleuve Noir.
Du Fleuve Noir à l'époque, ouais. Qui prenait les yeux fermés, les bras ouverts, à peu près tout et n'importe quoi. ce qui nous a aidés, nous autres jeunes auteurs, à faire nos premières armes et à tenter nos premières expériences au Fleuve Noir, puisqu'on pouvait à peu près publier ce qu'on voulait, hein, grâce à Nicole Hibert. Bon, ça ne lui a pas porté chance, ni au Fleuve, mais ça nous a bien aidés, nous autres auteurs, quand même. Hein. On peut en témoigner. Et donc voilà, on s'est retrouvés peu de temps après, on s'est dit bon, bah, puisque Nicole Hibert l'a accepté, nous a virtuellement presque signé le contrat, il faut qu'on fasse le bouquin. Donc on a commencé le bouquin, je suis allé passer 15 jours chez lui. Il habitait à l'époque en banlieue.
À Clamart,
Sur-Aisne. Ouais, un appartement.
L'appartement rez-de-chaussée, c'était à Garches.
Ou à Garches. Ouais.
C'est un petit jardin, en fait.
Non. Non, non, c'était pas au rez-de-chaussée d'ailleurs. C'était pas au rez-de-chaussée, c'était un appartement assez grand où je me souviens qu'il y avait une pendule qu'il avait ramenée d'Amsterdam où il y avait une grosse feuille d'herbe dessinée dessus et qui tournait à l'envers. C'était très difficile de lire l'heure sur cette pendule. Lui, il prétendait qu'il était très habitué. Mais bon. Durant les 15 jours que j'ai passé chez lui, il n'a pas eu spécialement de rendez-vous, donc je n'ai pas pu me rendre compte s'il était vraiment habitué ou pas. Et en tout cas, on a élaboré les grandes lignes du bouquin, et puis on s'est décidé à faire un plan, chacun allait écrire un chapitre, etc. Je fais le premier, tu fais le deuxième, je fais le troisième, etc., etc. Donc on a bien démarré le bouquin tous les deux, on se marrait bien. Et puis en fait, elles m'ont resté plus de 15 jours, donc je suis reparti chez moi. Moi, j'étais déjà plus à Paris à l'époque. Et là, en fait, l'histoire s'est un peu délitée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, on n'avait pour communiquer que le téléphone et le courrier. Et donc, puis on avait chacun aussi nos projets personnels. Donc, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça traînait trop, quoi, ça faire. Loin de Roland, j'avais moins d'inspiration, quoi, bizarrement. Finalement, je lui ai dit, écoute, moi, j'y arrive pas, comme ça, écrire un bouquin en attendant tes nouvelles, me mettre dedans, me ressortir dedans, me remettre dedans. Je te laisse continuer la faire tout seul. Je te donne les chapitres que j'ai déjà écrits, et puis. Et puis, t'en fais ce que tu veux et tout. Et donc, il en a fait ce qu'il a voulu et il l'a publié en deux volumes qui s'appelait Vipère et Ganja au fleuve noir. Et ça s'appelait toujours, je crois, La Cincé Gravite au 21. Voilà le fruit d'un début de collaboration entre nous. Si on avait eu Internet à l'époque, je pense qu'on aurait continué tous les deux, puis ce serait devenu un grand moment de délire en collaboration. Bon, c'est quand même un grand moment de délire, mais qu'à 90% de sa part quand même. Voilà, c'est un troisième grand souvenir de Roland, ou deuxième, je ne sais plus. Donc je te laisse la parole.